Conte aux quatre vents, une émission réalisée avec le Cercle des conteurs du Briançonnais, disponible tous les derniers mercredis du mois sur Fréquence Mistral.
Le bébé qui voulait pas dormir. Swan, swan, veni, veni, ven. Swan, swan, veni, veni, don. Lou swan voulio pas venir. Lou meinas voulait pas dormir. C'était un bébé qui voulait pas dormir. Sa mère, elle avait tout essayé. Elle l'avait bercé, cajolé, changé, nourri, même promené. Mais il n'y avait rien à faire. Le bébé, il ne voulait pas dormir. Épuisée, elle l'a reposé dans son berceau. Elle a bougé lentement le berceau. Il n'y avait rien à faire. Elle a craqué. « Bébé, bébé, cesse de pleurer !» Sinon, je te jette par la fenêtre, le loup viendra et il te mangera. La fenêtre était ouverte, c'était l'été. Le loup passait par là. Il s'est arrêté, il a dressé les oreilles, il a mieux écouté. Le bébé braillait toujours et elle, « Bébé, bébé, cesse de pleurer, sinon je te jette par la fenêtre !» Ouh, qui s'est dit le loup ? Ça, c'est un jour de chance. Et il a ouvert grand la gueule et il s'est calé juste sous la fenêtre et il a attendu que ça tombe. Le petit continuait à brailler. La femme, elle a continué de gémir, mais il n'y avait rien qui tombait. Le loup, il a patienté toute la nuit et au petit matin, il a refermé les mâchoires. Il avait un peu mal et surtout, il avait le ventre vide. Il a filé. Le lendemain, il repassait dans le coin. La fenêtre était ouverte, le bébé braillait. Et la femme ? La femme, il n'a pas tardé à l'entendre. « Bébé, bébé, cesse de pleurer !»« Allez, bébé, s'il te plaît !» Ah, qui s'est dit le loup ? Ça veut dire que c'est pour cette nuit ? Il a rouvert grand la gueule, s'est bien calé sous la fenêtre en calculant l'angle et il a attendu que ça tombe. Mais de toute la nuit, il n'y a rien qui est tombé. Au petit matin, la femme s'était endormie et le bébé aussi. Alors, il a filé. Mais comme on dit dans les histoires, jamais 203. Quand il est passé la nuit d'après, la fenêtre était encore ouverte et encore le bébé braillait. La mère, il n'a pas tardé à l'entendre. « Bébé, bébé, cesse de pleurer, sinon... » Alors, il s'est calé sous la fenêtre, il a ouvert grand la gueule et il a attendu. Et pendant qu'il était là, il y a le renard qui passait par là. Et le renard, il lui a dit, « Hé, le loup, qu'est-ce que tu fais là ? C'est dangereux d'être sous la fenêtre des gens. » « Attends, » qu'a dit le loup. « Renard, ce soir, c'est moi qui t'invite. Écoute. » « Bébé, bébé, cesse de pleurer. » Et puis...
Bébé, bébé, cesse de pleurer, sinon je te jette par la fenêtre, le loup viendra, il te mangera. Tu vois, renard, on va se partager le bébé. Imbécile, qu'il a dit le renard. T'y crois, toi ? Tu sais pas qu'entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a une sacrée différence. Le renard, il a filé. Le loup... Ça tournait dans sa tête. Entre ce que les gens disent et ce que les gens font, il y a une sacrée différence. Puis tout d'un coup, il a compris. Alors lui aussi,
Il a filé et plus jamais s'est arrêté. Ombre et lumière. Un riche marchand avait une fille unique. Sa mère était morte à sa naissance. Il l'avait élevée avec amour. C'était sa perle noire, son soleil vert, son aurore boréale. Elle avait grandi en taille, en sagesse et en âge. Elle ressemblait tellement à sa mère, le père a été troublé par sa réaction d'homme. Sage, alors il lui a dit « Ma fille, il faut te marier ». Elle s'est récriée. Il a attendu, mais n'a pas cédé. Elle a alors prétendu qu'elle ne pourrait aimer que l'homme qui trouverait le moyen de remplir tout l'espace de sa chambre en moins d'une journée. La fille était belle à regarder, on la savait honnête et travailleuse, et elle était aussi fille unique, ce qui ne gâtait rien. Les prétendants ne tardèrent pas à se présenter. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la chambre de la belle était aussi vaste que la grande salle d'un palais. Le premier prétendant était fils d'un riche marchand de tissus. Il a étendu tous ses coupons dans la chambre. Les couleurs chatoyaient, mais seulement le sol était recouvert. Au coucher du jour, quand les derniers rayons du soleil ont disparu, le volume de la chambre n'était pas rempli. Le second, fils d'un gros fermier de la région, a tenté d'entasser du foin. Mais au coucher du soleil, quand le dernier rayon est passé par le fenestron, il a éclairé les espaces vides qui demeuraient dans la pièce. Le troisième, fils d'éleveur, a rempli la pièce de laine de brebis. Mais au coucher du soleil, quand le dernier rayon de lumière est passé par le fenestron, il a éclairé l'espace vide qui demeurait entre le plafond et la laine qui, au fur et à mesure des heures, s'était tassée. Alors les prétendants se sont succédés, sans succès. Le père trouvait ça long. Et puis, un beau matin, devant la porte, arrive un jeune poète, les mains dans les poches. Toute la journée, il reste dans la chambre à ne rien faire, si ce n'est à regarder la demoiselle, à lui conter des rengaines, des ritournelles, des histoires à pleurer ou à rire. Elle, émue de tant de paisible attention, lui rappelle au crépuscule du jour qu'il lui faudrait tout de même songer à remplir la pièce. Alors, le garçon, sitôt le dernier rayon de soleil disparu, alors que l'ombre commence à remplir la pièce, sort de sa poche une bougie. L'allume, la pose devant lui, se recule, lui prenant la main. Et la lumière, tremblante au début, vacillante, prend de la vigueur et emplit toute la pièce. C'est le jour des noces. Les vœux ont été échangés. La belle, souriante, se tourne alors vers son époux. Mon ami, un endroit de la chambre n'avait pas été éclairé. Alors le jeune époux rougit. C'est cet endroit sous la bougie. Il se récrie, pourquoi n'avoir rien dit? Voyez-vous, je suis semblable à cette chambre que vous avez éclairée. Je possède moi aussi une part d'ombre secrète qui n'appartient qu'à moi, dans laquelle nul jamais ne pourra pénétrer. C'est une histoire que j'ai entendue dans Le Briançonnais par Pierre Agati. Joseph paye ses dettes. Giuffa venait de Vérone. C'était une sorte de vagabond. Et un beau jour, il a atterri à Briançon. Et à Briançon, Giuffa, ça fait pas. Alors on l'a appelé Joseph. C'était plus facile pour les gosiers briançonnais. Donc, le Joseph, c'était une sorte de vagabond. Aujourd'hui, allez savoir, on l'appellerait peut-être SDF. Pourquoi pas? Tout ce qu'il y a de sûr, c'est que Joseph, il était toujours là quand on avait besoin de lui. Toujours prêt à rendre service. Et en échange, il avait toujours un quignon de pain, un bol de soupe, un morceau de fromage, un bout de saucisse parfois. Et il était toujours là aussi quand il s'agissait de faire une partie de dés ou, quelquefois, voler une poule. Ça fait rien. C'était Joseph. Il était connu de toute la ville de Briançon, Joseph. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, Vauban venait à peine de faire construire les remparts. Et c'était pas bien grand. Une petite ville, Briançon, à l'intérieur des remparts, il n'y avait pas grand-chose. Alors, bien entendu, tout le monde le connaissait. Tout le monde l'appréciait comme le joyeux compagnon serviable qu'il était. Ouais, ben voilà. On était fin novembre. Et je ne sais pas si vous le savez, mais fin novembre, il y a souvent un petit courant d'air froid qui descend tout le long de la gargouille qui vous gèle complètement. Vous connaissez? Et le pauvre Joseph, ses vêtements, ils n'étaient pas en lambeaux, mais presque. Ses chaussettes étaient presque transparentes. Ses petites bottes récupérées on ne sait où avaient les semelles trouées en maints endroits. Son chapeau ressemblait plus à un corbeau qu'à un chapeau. Enfin, bref, il était plutôt mal en point. Et il se gelait, ce pauvre Joseph. Ce matin-là, en remontant la gargouille tout grelottant, il se dit « Quand même, ça peut pas continuer comme ça. Il faut que je passe l'hiver d'une façon plus confortable. Et pendant que j'y suis, plus élégante aussi. » Eh, tant qu'à faire. » Il réfléchit un moment. Et ce mercredi matin-là, c'était jour de marché sur la place d'Armes. Vous savez où elle est, la place d'Armes, à Briançon? Quand on monte la gargouille, c'est la grande place, là, à gauche, où il y a le tas de ferraille, maintenant. Bon, et Joseph va voir le tailleur, et il lui dit « Compagnon de l'aiguille, il me faudrait pour demain un costume chaud, si possible élégant, car je dois rencontrer un personnage très important. Et foi de Joseph, je te paierai, car ce personnage est mon débiteur. » Ah ! Le tailleur se méfie bien quand même un peu. Il le connaît bien, le Joseph. Et chez qui es-tu invité demain ? Qui est ce personnage bien important ? Alors, Joseph, de prendre un air inspiré, de montrer le ciel du doigt. Ah ! Le tailleur n'en revient pas. Mais, Joseph, quand tu seras là-haut, tu pourras leur parler un peu de moi, leur demander d'oublier un peu mes péchés ? Ben, Joseph a promis. En échange de quoi ? Joseph est reparti avec des habits neufs qui étaient là dans les shops. Une commande non honorée. Des habits neufs, confortables, chauds, élégants et qui lui allaient comme un gant. Sur sa lancée,
Il est allé voir le bottier et puis le chapelier, à qui il a tenu le même discours et desquels il a obtenu les mêmes avantages. Et voilà notre Joseph rentré dans son gîte au pied de la gargouille là-bas, avec tout ce qu'il fallait pour être habillé de neuf tout l'hiver. Seulement voilà. Le bruit s'est répandu dans tout Briançon que le pauvre Joseph, le lendemain, il s'en allait là-haut, là-haut. Alors les Briançonnais ont voulu voir ça et au matin, ils ont attendu Joseph dans la gargouille, aligné de part et d'autre. Si bien que quand Joseph est sorti de chez lui habillé de neuf, de pied en cap, tous les badauds sont dehors. Qu'est-ce qu'il est beau ! Bah, comme s'il le voyait devant lui, déjà marcher dans les prairies célestes, lentement, la tête haute, bah, les yeux rivés devant lui au loin. Les Briançonnais le regardent monter la gargouille, ils sont médusés. Et puis, il a passé la porte Pignerolles, il a semblé se diriger vers les Alberts, là-bas. Bah, c'est peut-être là qu'il réside, lui. Puis on ne l'a plus vu. Bah, chacun a continué à vaquer à ses occupations. Quant à Joseph, le soir même, de nuit, il a profité de l'ombre pour raser les murs et rentrer chez lui sans que personne ne le voie. Il s'est terré dans sa pauvre demeure. Ouf ! Il se sentait pas très à l'aise. Comment faire pour se sortir de ce piège ? Un jour, deux jours ont passé. Le tailleur est allé voir le bottier et puis le chapelier et ils se sont réunis tous les trois. Mais quand même, ce Joseph, il s'est moqué de nous. On aurait dû y penser que d'un voyage pareil, on ne revient pas. On n'a jamais vu personne revenir de là-haut. Après ce conciliabule, nos trois compères sont allés frapper à la porte de Joseph en disant « On va bien voir s'il est revenu. » Et Joseph, pris au piège, n'a pas trouvé d'autre solution que de s'allonger tout raide sur son lit avec un crucifix dans les mains et de faire le mort. Ils sont rentrés. Or, je vous l'avais bien dit que de là-haut, on ne revient pas. Quand même, on ne peut pas dépouiller un mort. Alors, ils sont allés chercher un pauvre cercueil de bois blanc et on a porté Joseph, comme le veut la coutume à l'époque, dans l'église des Cordeliers. Et on l'a laissé là, sur les tréteaux, cercueil ouvert. L'enterrement pouvait bien attendre. On est parti en fermant la porte. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'église des Cordeliers, il fait pas chaud, déjà au mois d'août. Alors, imaginez au mois de novembre ce que ça peut donner. Et notre Joseph, il est là, tout raide dans son cercueil. Et il est bientôt mort de froid, pensez. Il ne sait plus quoi faire. Quand tout d'un coup, là, dans l'église des Cordeliers, arrive un petit groupe de voleurs qui viennent s'installer là pour compter leur butin. Ils comptent les pistoles sur un banc pour se les partager. Tout à coup, Joseph, n'y tenant plus, se met à claquer des dents. « Ah, ça !» dit le chef des malandrins, « qu'est-ce que c'est que ce mort qui se permet de claquer des dents dans la maison du bon Dieu ?» Et puis il sort son pistolet. Il se met à viser le nez de Joseph qui dépasse un petit peu de cercueil. Ce que voyant, car le Joseph entr'ouvre les yeux pour voir un peu ce qui se passe, Joseph croit cette fois sa dernière heure arrivée. Alors, il se dresse dans le cercueil, lève les bras en l'air et crie « À moi les morts ! Venez à mon secours !» Les voleurs, voyant ce mort dresser les bras au ciel, appeler les morts, ben eux, ils sont pris de panique, se sauvent en laissant les pistoles et le sac sur le banc. Le Joseph, ni une ni deux, sort du cercueil, ramasse le sac, les pistoles, se sauve chez lui, en prenant bien garde que personne ne le voit. Le lendemain, c'est mercredi, jour de marché sur la place d'armes. Notre Joseph, de très bon matin, avant même qu'on ouvre l'église, il est là, sur la place, et il attend le tailleur, le bottier, le chapelier. Et quand ils ouvrent leur échoppe, il les rembourse en disant qu'il a bien fait leur commission. Oh ! Le Joseph est ressuscité ! Bientôt, tous les Briançonnais sont là pour constater le Joseph, il est là, bien vivant, et avec des sous en plus. C'est que depuis ce jour, lorsque Joseph remonte la gargouille d'un air digne dans son bel habit, tout le monde le salue fort bas de son chapeau. Il y en a certains qui s'approchent pour lui serrer la main. Pensez donc, c'est que quand on fréquente le Très-Haut, on mérite bien un peu de considération.
Les vieux mariés. Louise et Paul étaient, comme on dit, un vieux couple. Ils avaient déjà passé leurs noces de diamants depuis longtemps. Plus de 60 ans ensemble et tout allait bien. Ils s'aimaient encore plus, avec souvent moins de fougue dans leur jeunesse, mais la vieillesse a de ses attentions. Et ils avaient toujours envie de se faire plaisir. Ces petits plaisirs remplissaient leurs jours de tendresse. Bref, ils étaient heureux. Leur maison était petite, entourée d'un petit terrain, et tous deux s'en occupaient. Louise s'occupait du potager quand Paul avait bêché, et le soir, celui-ci allait arroser quand il y en avait besoin. Cette année-là, Louise, quand elle a eu fini de planter, de semer, de mettre ses petits piquets, eh bien, il restait un petit carré de terre tout nu. Elle s'est demandé ce qu'elle pouvait bien mettre. « Ah, mon Paul aime tant le céleri. Je vais y semer du céleri, ça lui fera une surprise. » Et vite, vite, elle sème le céleri sans rien marquer. Quelques jours après, Paul, en venant arroser le potager, il a vu que ça avait bien commencé à pousser, mais là, dans le coin, il y avait un petit carré de terre tout nu. « Tiens, il n'y a rien là ? Si j'y mettais quelque chose pour faire plaisir à Louise. Louise, elle aime tant le fenouil. Allez, demain, je sèmerai du fenouil. » Le lendemain, vite, vite, en cachette, il sème le fenouil. Il est tout content. Le temps passe. Dans le potager, les mauvaises herbes, ça pousse vite. Il faut désherber souvent. Vite, vite avant midi, Louise, pour la surprise, elle va désherber tout ce qui n'est pas le céleri dans le petit carré de terre. Et dans la soirée, vite, vite, Paul, il désherbe tout ce qui n'est pas le fenouil dans le petit carré de terre. Et puis quand même, tous les deux, chacun de leur côté, ils regardent le petit carré de terre qui reste tout nu. Ça, c'est bizarre. Ils attendent, chacun de leur côté. Le jardin était beau. Le petit carré de terre est resté tout nu. Alors, ils ont fini par en parler. Ils ont ri. Il faut faire attention quand on sème. Les surprises, ça peut ne pas être toujours bien. Le roi des rois. Il y a longtemps, très longtemps, 1000 fois très longtemps. Le roi des rois règne sur toutes les terres connues. Il règne depuis si longtemps que ses sujets, les uns après les autres, le croient immortel, eux qui changent de génération. Pourtant, le roi commence à vieillir, il le ressent. Un soir, alors qu'il regarde tomber les dernières feuilles dans la lumière d'automne, il comprend que sa vie va s'achever. Oh, pas tout de suite, mais elle va s'achever. Seulement, voilà, avant de mourir, il veut s'offrir un dernier plaisir, posséder le plus grand livre qu'on ait jamais vu, le livre qui raconte toutes les histoires des hommes. Alors, le roi fait venir dans son palais de Xanador tous ses chercheurs de contes, ses chasseurs d'épopées, ses pêcheurs de légendes. Chercheurs, chasseurs et pêcheurs parcourent le vaste monde. Ils s'aventurent jusqu'aux royaumes les plus lointains, perdus au milieu des brumes, perchés au sommet des montagnes les plus vertigineuses, enfouis au plus profond de l'océan. Enfin, ils reviennent et tous, autant qu'ils sont, dépose au pied du roi des rois toutes les histoires des hommes rangées dans des coffres qui font une mer autour de lui. Le souverain contemple ses trésors, puis il fait venir ses historiens, ses scribouilleurs. Maintenant, écrivez-moi le livre. Les graveurs de lettres, les ciseleurs de mots, les rimeurs, les rythmeurs, toute cette foule se met au travail. Tous les écrivains travaillent nuit et jour pendant presque 100 ans. Enfin, le livre est prêt. C'est un livre de pierre, haut comme la tour de Babel, qui, raconte-t-on, s'est levée jusqu'au ciel. Le roi des rois promène son regard sur l'immensité du livre de pierre. Il soupire. Je suis trop vieux. Je n'aurai pas assez du reste de ma vie pour lire tout cet ouvrage. Écrivez-moi un résumé. De partout, on appelle les résumeurs, les tailleurs de phrases. Ils travaillent jour et nuit pendant presque 10 ans. Enfin, le livre est prêt. C'est un livre d'argile. Haut comme une cathédrale. Enfin, dans ce temps-là, les cathédrales n'existent pas. Le roi des rois lève la tête. Oh, il ne me reste plus assez de temps pour lire ce livre. Écrivez-moi un résumé du résumé. On fait venir des conteurs de lettres, des grignoteurs de mots. Au bout d'une allée, le livre est prêt. Il est fait d'un rouleau de papyrus aussi long qu'un fleuve. « Oh, je n'ai plus assez de vie, » dit le roi des rois. « Écrivez-moi un résumé du résumé du résumé. » De Chine et de Byzance, la lointaine, on mande les coupeurs en quatre de points sur les i qui n'ont pas leur pareil pour faire des histoires. Aussitôt, ils se mettent à l'ouvrage. Jour et nuit, ils coupent, trient, collent, coupent, trient, collent, pendant presque un mois. Le livre est gros, comme un gros dictionnaire. Mais ça, le roi ne le sait pas, les dictionnaires n'existent pas encore. Les pages sont en parchemin reliées par des anneaux d'or. « Ma vie touche à sa fin, » dit le roi des rois, « qu'on me fasse un résumé du résumé du résumé du résumé. » On va quérir le grand rimailleur. À cette époque-là, il n'en existe qu'un seul au monde. Nous, on a oublié ce que c'est. Mais il arrive avec son double sabre à couper la parole. Au bout d'une semaine, le livre est prêt. C'est une simple feuille de papier, comme une feuille d'aujourd'hui format A3, qu'on aurait pliée en quatre. pour faire 4 pages. Dans la salle d'honneur du palais, étendu sur son lit d'or et de pierreries, le roi des rois se meurt. Déjà, ses yeux ne voient plus la lumière du jour. Je meurs et je ne connaîtrai jamais l'histoire de toutes les histoires, gémit celui qui n'est plus maintenant qu'un homme comme les autres. Un grand silence lui répond. Personne ne sait raconter l'histoire de toutes les histoires. Le roi ne bouge plus. C'est à peine si sa poitrine frémit encore, soulevée par une respiration presque imperceptible. Le silence dure. Personne n'ose lire les 4 pages de peur que le roi ne meure avant la fin. « je sais, laissez-moi passer !» Se faufilant entre la foule des médecins, des petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, des courtisans, des historiens, des résumeurs, des rimailleurs, un enfant se précipite. Il vient s'agenouiller au chevet du mourant et lui chuchote à l'oreille. Alors, tandis que son esprit va déjà s'envolant, on voit sur les lèvres du roi des rois se dessiner un grand sourire et dans un dernier souffle, on entend « Il était une fois !» Repris de bouche en bouche, « Il était une fois ! » !»« Il était une fois !» Il était une fois, ces 4 mots répétés jusqu'à aujourd'hui qui font encore rêver.